de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour nous interroger sur les moteurs de l'aventure scientifique et humaine. Qu'est-ce qui pousse à se dépasser, à partir toujours plus loin, dans le Grand Nord ou le Grand Sud? Qu'est-ce qui permet de tenir dans des conditions extrêmes, de repousser toujours plus loin ses propres limites et celles de la connaissance? Voilà ce que nous allons chercher à comprendre avec notre invité, l'explorateur Jean-Louis Etienne, médecin aventurier de l'Antarctique et de l'Arctique, où il s'ingénie à monter des expéditions scientifiques aux limites pour faire connaître les régions polaires et comprendre le rôle qu'elles jouent sur la vie et le climat de notre Terre. Autour de la question, pourquoi persévérer, oui, et jusqu'où? Bienvenue. Bonjour Jean-Louis Etienne.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous autour de la question pourquoi persévérer. Persévérer, c'est donc le titre de votre dernier essai aux éditions Paulsen, dans lequel l'explorateur que vous êtes, médecin, spécialiste de nutrition et de biologie du sport, s'interroge sur cet esprit d'aventure qui vous anime depuis votre première traversée du pôle Nord en solitaire jusqu'à votre prochain départ sur le Polar Pod dans l'océan Austral, en passant par la traversée de l'Antarctique en traîneau à chien ou celle de l'océan Arctique en ballon, et sans oublier les nombreuses expéditions scientifiques que vous avez montées, toujours aux limites. On a l'impression, Jean-Louis Etienne, que rien ne vous arrête dans votre élan. Pourquoi persévérer, justement, toujours et encore?
Alors, persévérer, si vous voulez, je fais beaucoup de conférences, à la fois pour les adultes, mais aussi beaucoup en milieu scolaire, et on me demandait régulièrement, est-ce que vous avez un message? Et donc, est-ce que j'ai un message? Et en fait, en regardant mon parcours, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui m'a conduit jusque-là. J'ai persévéré dans ce que j'avais envie de faire. Et je me rends compte que c'est la persévérance qui vous construit. Parce que on a tout le temps, on a des envies, des idées, elles s'éveillent en vous, et puis vous laissez faire, vous laissez abandonner. Et c'est vraiment quelque chose qui vous a animé à un moment donné, et que vous n'y prêtez pas attention et que vous ne persévérez pas, vous créez une frustration. Quelque chose qui vous a animé à un moment donné, que vous avez abandonné. Vous voyez, ça arrive de temps en temps qu'on se lève le matin ou je sais pas, vous faites une rencontre et vous dites « Ah mais ça, c'est exactement ce qu'il faudrait pour ma vie, vous voyez, c'est... »
Ça, j'ai envie, ça, je veux.
Alors moi, je dis, ces jours-là, les lundis ressemblent à des vendredis, vous voyez, c'est... Il y a un feu qui a démarré. Et donc... on va se lancer là-dedans, et de toute évidence, au début, il y a la découverte de l'univers, on apprend plein de choses, mais dès qu'on va commencer à entrer dans le travail, dans le détail, il y a du travail, puis il y a de la concurrence, puis il y a des gens qui vous découragent, et puis on a une faiblesse, et si on passe pas ce seuil, si on persévère pas, en fait, on va rester avec cette frustration de quelque chose qui vous a au moins donné agité, qui a même résonné en vous fortement, et puis vous n'en avez pas donné corps. Et donc la persévérance, à mon avis, elle est là.
C'est une clé.
C'est une clé.
Autour de la question, pourquoi persévérer justement d'un pôle à l'autre, je vous propose de commencer, Jean-Louis Etienne, par quelques pistes de réflexion sonore avec le mix aux limites de Guillaume Ploquin.
5h du matin, dimanche 11 mai 1986, Jean-Louis Etienne a gagné son pari. Voilà. La terre lui tourne sous les pieds. Et le champagne lui tourne la tête.
J'admire ses capacités d'explorateur et puis son goût d'aller toujours vers l'inconnu.
Par-delà les limites, moi ça me donne envie de me jeter par-dessus bord.
Vu du ciel, Clipperton, c'est une poussière de sable et de corail perdue dans le Pacifique. Des Robinson Crusoe, il y en a eu au cours des siècles. Cette fois, ce sont des scientifiques français emmenés par Jean-Louis Etienne. Leur mission, dresser l'inventaire d'un écosystème très fragile.
Les pôles sont des terrains privilégiés pour la recherche scientifique et nombreux sont les pays qui ont exploré les territoires glacés du pôle Sud et du pôle Nord.
Jean-Louis Etienne, l'homme qui est arrivé à pied au pôle Nord géographique, ne parvient pas à repartir, figurez-vous. Il est toujours prisonnier du mauvais temps et dérive sur son glaçon, pris dans les courants marins. Il s'ennuie même.
J'ai appris, si vous voulez, sur ce terrain, une devise que je m'applique, c'est persévérer.
Relax, smile.
On pourrait poser la question la plus banale, c'est quel est
son prochain projet, parce qu'il passe toujours d'un projet à l'autre, donc j'imagine qu'il en a quelques-uns.
Qu'est-ce qu'il n'a pas fait encore ?
Le Polarpod, c'est le nouveau défi du médecin explorateur Jean-Louis Etienne. En 2017, ce drôle d'engin sans moteur, flottant à la verticale, se laissera dériver dans l'océan austral.
De plus en plus, les traces de pollution liées aux activités humaines se concentrent vers les pôles.
Pas question d'improviser quand on prétend se mesurer au 50e hurlant.
Il n'y a qu'un océan sur notre planète. Un océan, une planète. Et ce qu'on fait dans une partie de l'océan, ça implique d'autres parties de l'océan.
L'Arctique est un laboratoire irremplaçable pour étudier aussi bien la pollution de notre planète que le réchauffement du climat, ou encore l'adaptation des espèces animales à cet univers si particulier.
Pourquoi et comment persévérer dans cet univers si particulier, Jean-Louis Etienne? Vous nous avez dit que c'était la clé de persévérer, parce que vous avez dû, au fond, vous poser souvent la question, dans ce livre, hein, vous le dites d'ailleurs, vous vous êtes posé la question, notamment sous la tente, par moins 49 degrés, au milieu de l'océan Arctique. C'est ça, qu'est-ce qu'on fait là, quand même?
Oui, il faut être animé par un projet bien ancré, quoi. Hein. J'en avais vraiment envie. Le pôle Nord est né, l'envie d'aller au pôle Nord. J'avais 40 ans quand je suis allé au pôle Nord. J'avais fait 15 années de médecine générale, j'étais interne en chirurgie avant, j'avais abandonné la chirurgie pour être médecin d'expédition, et j'étais à ma 10e expédition à peu près à la face nord de l'Everest. J'étais au camp 2, j'étais seul au camp 2, il y avait 4 équipiers qui étaient bloqués au camp 5, et on avait des soucis pour eux parce qu'ils n'arrivaient pas à descendre, et à presque 8000 mètres d'altitude, et donc je suis monté tout seul comme médecin avec de l'oxygène, etc. Je les attendais, et là je me suis dit, et si je faisais mon histoire? Si je faisais ma prochaine expédition, j'avais eu une intensité relationnelle avec les éléments et j'avais envie d'avoir quelque chose qui m'appartenait. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller au pôle Nord. Et donc j'ai mis 2 ans à préparer ce premier projet. En 85, j'ai échoué et j'y suis revenu en 86.
Il fallait persévérer là aussi. Hein.
Là, j'ai persévéré parce que j'avais appris mes limites. Et alors, j'étais vraiment habité par ce projet, vous voyez. J'avais l'impression que ma vie devait passer par le pôle Nord. À un moment donné, je m'étais fait mon histoire, si vous voulez, mais c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire, de réaliser. Et 85, cet échec, je le regarde et je me dis, non, tu peux quand même le faire, il faut changer le traîneau, le sac de couchage qui va pas bien, et je suis reparti. Et ce que vous évoquez, camper par moins 48, c'est terrible, quoi. Hein. Donc l'avion qui vous pose en haut du Canada, tout à fait au nord, un petit avion sur ski vous pose... devant vous, vous avez la banquise. Donc le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé, hein. C'est une banquise qui est très chaotique. Il y a 800 kilomètres à faire en ligne droite, mais enfin c'est... Et puis je me suis retrouvé sur la glace comme ça, le pilote est à côté, donc je lui fais signe, il ouvre la fenêtre et je lui dis où est le pôle? J'avais envie de dire quelque chose, je me retrouvais seul. Où est le pôle? Où est le Nord? Et il m'a fait signe comme ça, il a fermé la petite fenêtre et il est parti.
Et vous êtes retrouvé tout seul?
Et cet avion là, vous voyez le bruit d'un avion dans un silence total qui s'éloigne et tout d'un coup qui donne le... Et tout d'un coup, moins 48, c'est la température qu'il faisait. Vous pouvez pas vous dire, bon, maintenant je suis arrivé là, au pied, je vais... Non, il faut faire quelque chose tout de suite. Le froid extrême vous prend, vous fige à la fois le cerveau, le corps. Il faut décider tout d'un coup, soit monter la tente, se mettre à l'abri tout de suite, soit partir. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, aller au pôle Nord, c'est pas tellement technique, au sens où... les coureurs du course au large sont des régatiers, vous voyez, ils savent régler les bateaux, etc. Les alpinistes, pareil, je les ai fréquentés. Mais le pôle Nord, c'est une épreuve d'endurance essentiellement. Et il faut devenir un super campeur, parce que c'est tant que vous marchez, que vous avez chaud, vous tirez votre traîneau, même s'il fait très froid, le traîneau est lourd, il faut le tirer, etc. Mais dès que vous arrêtez, le camping devient compliqué. Effectivement, dormir par moins 48 sous la tente, c'est...
Qu'est-ce qui fait tenir, justement? Parce que on entend bien, hein, se persévérer, c'est un projet qui vous tenait absolument à cœur, mais qu'est-ce qui fait sur place qu'on tient, qu'on fait ce qu'on a à faire, qu'on revient, puis qu'ensuite on repart?
C'était une ambition colossale.
Mm-hmm.
Vous voyez, j'avais envie, pour résumer, j'y suis pas allé pour être seul. J'y suis allé pour être le seul. Vous voyez,
avoir été au pôle Nord de cette manière-là en solitaire.
Non, mais personne n'a plus.
Avec un petit crayon noir quand même pour raconter sur un petit cahier. Juste un crayon, il n'y a que ça qui marche, qui tient dans le froid.
Oui, j'avais un stylo spécial fait pour les cosmonautes à la NASA, qui travaille par grand froid ou en apesanteur. En fait, il fonctionnait pas et c'est juste un crayon. Et pour vous donner une idée de la complexité de l'écriture, c'est que quand vous expirez, quand il fait très froid, tout le monde le sait, il y a un petit brouillard qui se fait. Mais là, c'est un brouillard de petits cristaux de glace, parce que vous expirez, ça gèle immédiatement, et ce sont des petits cristaux qui tombent sur le papier.
Et qui gèle
qui se dépose sur le papier. Vous devez les pousser, puis avec la lampe frontale dans le halo. Dans le halo, vous ne voyez pas, et donc j'écrivais à l'inspiration. C'est le cas de le dire. C'est-à-dire que vous écrivez si vous voulez, puis parce que l'expiration fait un nuage, si vous voulez, dans la lampe frontale. Donc ce sont ces toutes petites choses là, si vous voulez, qui accumulées font que on se demande par moments qu'est-ce qu'on est venu faire là, et la tentation de l'abandon vous taraude souvent, quoi.
Autour de la question pourquoi persévérer dans la bonne direction, on écoute le groupe Home, Right Direction sur RFI.
What a mess. Hey you people, do you know what's the right direction? Go in the right direction and leave the north alone. 'Cause my brain is right on the table and the south is on my path is bound. Let's get east but not too strongly. Take care of the ground. The ground. Compass is set, the map's getting mad. Let's follow the right direction now. It's trembling, it's wobbling. The north is waiting. We're so late, we're violets, but north.
Sur RFI, Right Direction, dans la bonne direction, avec notre invité, le médecin explorateur Jean-Louis Etienne, autour de la question pourquoi persévérer jusqu'au pôle Nord. C'est tout le sens de la question que le psychanalyste Patrick Avran vous posait, Jean-Louis Etienne.
On peut demander à Jean-Louis Etienne s'il connaît, je crois qu'il connaît, le capitaine Atterras. Le capitaine Atterras, qui était un capitaine qui voulait découvrir le pôle Nord et qui était un personnage emblématique de Jules Verne. Et cet homme est devenu fou. Et cet homme n'a cessé dans sa folie de se diriger vers le Nord et de revenir, et de se diriger vers le Nord et de revenir. Toute la question de persévérer, certes, persévérer, encore faut-il savoir s'arrêter dans la recherche de la même chose et pouvoir passer à autre chose parfois.
Que vous inspire cette réflexion du psychanalyste Patrick Avran?
Alors, il est évident que persévérer à devenir fou, c'est pas la bonne voie.
D'accord.
Je pense qu'il faut qu'on ait conscience qu'il y a un chemin. Et j'en profite pour souligner le talent de Jules Verne. Enfin, tout le monde le connaît.
Vous connaissiez le capitaine Atterras?
Oui, je connais le capitaine Atterras. C'est en fait, encore une fois, j'étais sidéré par le talent de Jules Verne, parce que Jules Verne n'a jamais été au pôle Nord ou dans ce secteur. Et la façon dont il le décrit, et le froid, et la banquise, avec une précision sans y avoir été. Donc c'était vraiment un visionnaire, un grand écrivain.
Et qu'est-ce que vous cherchiez, vous, au pôle Nord? Et bientôt, on y viendra en deuxième partie, vers le pôle Sud.
Moi, j'ai toujours aimé... Non. Moi, j'aime l'expédition.
L'expédition.
Voilà.
Qui peut encore exister aujourd'hui.
Ah,
hein.
Mais moi, je me les invente tout le temps, si vous voulez, quoi.
Ouais, il faut les inventer, oui.
Vous voyez, on avait à la maison un magazine qui s'appelait L'Illustration, Alors l'illustration, on le trouve que chez les antiquaires, mais c'était du temps de l'Empire français, où la France avait des territoires partout dans le monde, et l'illustration c'était une sorte de National Geographic français de cette époque-là, et ça, il y avait des crayonnés, quelques photos en noir et blanc, et on voyait donc la France envoyée partout, des ingénieurs, des médecins, des architectes, des mécaniciens, enfin tout ce qu'il fallait. Et donc on voyait des images de porteurs qui avançaient dans la forêt ou sur des voilà. Et je m'imaginais ma vie comme ça, faire partie d'expéditions, et j'ai retrouvé il y a pas très très longtemps une liste de matériel que j'avais écrite avec un truc qui s'appelait le catalogue de la hutte. Il y a très longtemps, c'était le catalogue outdoor de l'époque, et j'avais fait la liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver.
C'est que vous avez suivi ces rêves d'enfant. Quand
exactement.
Vous dites persévérer, c'est quand même ça.
Mais non, mais exactement. C'est pour ça, quand je dis, je regarde ma trajectoire, en fait, je me rends compte que je suis resté fidèle à cette idée. Vous voyez, j'étais, donc, cette idée de camper, de, moi, quand j'avais 14, 15 ans, j'allais au Pic de Nord, qui est un sommet du Tarn, une espèce de sommet arrondi, et même pas si loin. Il y avait du vent en hiver sur le visage. Je m'imaginais que j'étais en Himalaya, que j'étais en train de braver les sommets. Vous voyez, j'aimais cette notion d'engagement. En fait, j'étais très timide. Et la nature a été mon refuge, et ça a été la toise, la dimension à mes engagements. Je m'engageais, si vous voulez.
Parce que vous n'étiez pas, enfin, je sais pas si quelqu'un est prédestiné à cela, mais vous n'étiez pas prédestiné à cela. Aujourd'hui, vous racontez aussi ensuite ces aventures, vous les écrivez. Or, quand vous étiez jeune, l'écriture, c'était pas votre fort.
Ah non, non. Mais vous avez dit médecin, explorateur,
ouais.
Et maintenant, je crois que je vais mettre écrivain.
Mmh. Ah, vous pouvez.
Parce qu'effectivement, vous pointez du doigt quelque chose d'important. Moi, j'ai une scolarité qui commençait, on va dire, par un échec. Je n'avais pas les notes pour entrer en sixième. Donc, j'ai été orienté vers une formation professionnelle, tourneur-fraiseur. Ça a été ma première formation. Et au sein
vous
même...
Vous auriez pu rester tourneur-fraiseur.
Mais je ne suis pas resté. C'est-à-dire, je n'ai jamais exercé le métier. J'étais au collège technique où j'étais. Il y avait une section qui venait de s'ouvrir, le bac technique. Et donc, c'était des élèves qui venaient de l'extérieur. Et là, donc, j'ai été orienté vers le bac. À un moment donné, je me suis mis à travailler, le travail manuel. Donc, moi, je suis un farouche défenseur du travail manuel. C'est ce qui m'a donné de la confiance. Donc, tous les jeunes qui nous entendent, si jamais vous ramez dans les cultures générales, c'est important peut-être d'aller vers une formation professionnelle, peut-être qui vous donnera confiance. Utilisez ces 10 doigts, on fait quelque chose, on prend confiance.
Et une fois qu'on... Et après, on peut réaliser ses rêves. Enfin,
exactement.
Aller au bout de ses rêves, ce que certains grands intellectuels ne font
oui,
peut-être pas.
Oui, mais même, incrémenter, enrichir son existence, si vous voulez, et revenir dans un cursus scolaire comme j'ai pu le faire. Et donc, cette notion d'exploration, d'expédition, j'aimais ça. Puis alors après, j'étais dans médecin et interne en chirurgie. Et là, est revenue cette idée sous-jacente de l'expédition. Et c'est comme ça que j'ai été médecin d'expédition pendant presque 10 ans. Je faisais la médecine générale en remplacement pour gagner ma vie. Et je partais en expédition. J'ai fait la course autour du monde avec Tabarly, avec Alain Collage. J'ai navigué des tentatives record de l'Atlantique avec le père Jaouen. J'étais en Himalaya, au Groenland. Enfin...
Et aujourd'hui, vous entraînez des scientifiques, des chercheurs.
Voilà. Et après, j'ai monté mes propres expéditions en invitant sur des terrains qui sont souvent difficiles d'accès, des scientifiques, effectivement. Alors moi, je ne suis pas un scientifique de terrain, j'ai une culture scientifique, j'ai fait des études, je suis bac plus, je ne sais plus combien, donc je continue à me cultiver, et cette notion d'expédition, aller explorer quelque chose, amener des chercheurs, ça m'a toujours fasciné.
Et on peut le faire aujourd'hui, parce qu'on a un peu l'impression aujourd'hui que la Terre,
non,
elle a
non.
déjà été explorée.
Non, si vous voulez, ce qui change, c'est les outils d'observation. Vous voyez, nos prédécesseurs, au siècle dernier, partaient pour aller découvrir des nouvelles terres qu'ils découvraient. Bon, il y a 2 siècles, on faisait les premiers... Ah, tiens, une île, mon Dieu, on découvrait une île, si vous voulez. Alors, il y avait les naturalistes qui venaient, qui faisaient des dessins des plantes, on ramenait des échantillons d'oiseaux ou autres, qu'on allait au muséum d'histoire naturelle. Aujourd'hui, on travaille sur une autre dimension. Par exemple, sur l'île de Clipperton, on avait des gens qui faisaient de la génétique des populations. Donc, on prend un échantillon sur l'animal et on étudie ça pour savoir... D'où il vient, par exemple, on dit, tiens, le génome est ça. Ah, mais moi, sur cette île-là, j'ai aussi un animal qui est comme ça, donc ils se sont croisés. Voilà, donc.
D'autres genres de découvertes.
D'autres
les découvertes sont
découvertes
toujours possibles.
Toujours.
Autour de la question, pourquoi persévérer? Comment découvrir plein de choses, mais aussi ses limites? On continue de s'interroger avec vous, Jean-Louis Etienne. Dans 3 minutes, on se retrouve juste après le flash d'info d'un pôle à l'autre. À tout de suite.
De la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question pourquoi persévérer ? Persévérer, c'est la devise et le titre du dernier essai de notre invité Jean-Louis Etienne, médecin, explorateur et écrivain du pôle Nord au pôle Sud où il s'apprête à repartir pour une nouvelle expédition, une nouvelle aventure scientifique et humaine sur l'océan Austral aux limites de la connaissance.
Le Polarpod, c'est le nouveau défi du médecin explorateur Jean-Louis Etienne. En 2017, ce drôle d'engin sans moteur flottant à la verticale se laissera dériver dans l'océan Austral. À son bord, trois marins et quatre scientifiques qui réaliseront de nombreuses mesures.
Là, on va pouvoir aller déjà dans une zone où on va très rarement, à une vitesse assez lente, puisque c'est la vitesse de dérive. Donc ça va permettre de faire des mesures qu'on ne peut pas faire d'habitude, de faire des mesures assez fiables d'échange entre l'océan et l'atmosphère, puisqu'on va avoir une structure qui va peu perturber le milieu. Ça fait déjà un bon moment qu'on parle de ça dans l'école, dans le milieu scientifique, on va dire, et on a déjà quelque chose d'assez précis d'écrit, avec différentes thématiques. Il y a un comité scientifique aussi, qui est international, qui a été créé, donc on est vraiment prêt là, au goûter de Jean-Louis, pour réagir dès que la structure sera prête. En fait. On est dans les starting blocks, là.
Séverine Alvin, la coordinatrice du programme de recherche de Polarpod, ben elle est prête. Hein. Est-ce que Polarpod, il est prêt, Jean-Louis Etienne ?
Le dessin est fait, les plans sont faits. On a fait une maquette qui fait 2,10 m et nous avons essayé cette maquette au bassin Ifremer à Brest, dans des creux de 7 m et 11 m.
Comment il se présente cet engin sans moteur
hein. Oui, alors écoutez... Comment il se présente ? C'est un navire vertical, on va dire. C'est un grand flotteur vertical qui fait 100 mètres. Et on habite tout à fait au-dessus, bien sûr. Et je vous explique le principe simplement. Sur l'océan, il y a la zone de conflit, si vous voulez, c'est là où le vent et la mer se rencontrent, à la surface. Et le conflit, c'est les vagues. Donc les bateaux, en général, sont posés sur les vagues, sur la zone de conflit, donc ils bougent, voyez. Donc si vous voulez travailler dans l'océan Austral, c'est-à-dire dans les 50e, où il y a toujours du vent, où il y a toujours des vagues...
Les 50e rugissants.
Rugissants, oui, il y a de la houle, si vous voulez. Il faut avoir un flotteur, un bateau qui est vertical, très long, une espèce de tube qui va descendre profond, jusqu'à 80 mètres, et là, vous êtes pris dans une eau qui est beaucoup plus stable. Vous voyez qui n'est pas agité à la
vous
surface
tenir,
par les vagues.
En fait, du coup, sur l'eau.
Vous êtes tenu par l'eau, si vous voulez, à 80 mètres dessous, vous n'avez plus ces vagues. Et donc, vous êtes vraiment, on va dire, ancré dans la profondeur, et les vagues vous secouent beaucoup moins. Donc, là, on est à la radio, mais je vous invite les gens à aller faire mon nom, Jean-Louis Etienne, et vous verrez à quoi ça ressemble. Donc, c'est beaucoup plus simple.
Et il va servir à quoi, cet engin? Il va prendre des mesures?
Alors, cet engin, il va permettre de séjourner sur cet océan, qui est un océan agité, sur une longue période. On va faire le tour de l'Antarctique. L'Antarctique, donc, c'est le continent du pôle Sud. Il va faire le tour, et cet océan austral, il réunit les eaux de l'Atlantique, de l'Indien, du Pacifique. On va tourner. Et alors, on a présenté ce projet, comme dit Séverine Alvin, on a un comité scientifique international, un petit peu partout, surtout aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Australie, etc. Ce qui émerge comme volonté, comme attente, surtout des scientifiques, c'est trois choses. D'une part, les échanges entre l'atmosphère et l'océan. Cet océan austral est ce qu'on appelle un puits de carbone. C'est un réservoir d'absorption du gaz carbonique que l'on émet en excès. Donc la question, c'est quelle est la performance encore de cet océan ? Est-ce qu'il absorbe beaucoup de gaz carbonique ? Quelle est la part ?
C'est crucial aujourd'hui.
C'est crucial. Quelle est la part qu'il joue dans la régulation du climat, puisque le gaz carbonique est responsable de l'accroissement de l'effet de serre. Ça, c'est la première série de mesures qui est demandée. Deuxièmement, étant donné qu'on a 80 mètres de tirant d'eau, c'est-à-dire on est à 80 mètres sous l'eau, on n'a pas de moteur, on dérive avec le courant. On a quatre éoliennes qui nous donnent le courant électrique, on n'a pas de générateur, on n'a pas de moteur, on fait pas de bruit. Et à 80 mètres sous l'eau, en plus l'océan Austral dans les 50e, où il n'y a aucune ligne maritime, pas de bateau, c'est le silence, et on va écouter la faune. C'est-à-dire, on va...
Vous n'allez pas la perturber, vous allez pouvoir l'écouter.
Et l'écouter. Alors aujourd'hui, on connaît la signature sonore, le krill fait clic, 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 clic. Le krill, c'est des petites crevettes, vous avez l'éléphant de mer,
ils font quoi,
le fait.
Ils font quoi
le...
Ah oui, il fait... Clic, 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 ça, c'est le krill.
Des petits clics comme ça. Vous avez l'éléphant de mer qui fait... Il fait des choses comme ça. Après, la baleine bleue, je ne sais pas où la faire.
Ah, dommage.
Mais dommage. Mais on connaît la signature sonore. Et donc, vous écoutez en permanence... Et donc, vous avez l'inventaire de ce qui vous cause, si vous voulez. Donc, comme ça, vous faites un inventaire de la faune. Et ce qui est bien, c'est que vous travaillez le jour, la nuit, par brouillard, puisqu'on n'a pas besoin de voir pour faire cet inventaire.
Il n'y a que vous sur place, qu'on parle beaucoup de pollution sonore dans les océans, mais là, il y aura...
Ah non, il n'y a rien, là. On est loin de toutes les routes maritimes et nous-mêmes, nous, on n'a pas de bruit. On fait pas de
Donc
bruit.
Vous allez vraiment pouvoir capter
le son de l'océan et avec ça, on va faire l'inventaire. Et la troisième chose qui est demandée, c'est effectivement, les satellites sont les observateurs de la Terre, mais on a toujours besoin d'avoir au sol une validation de la mesure. Et ça, ça nous est demandé par la NASA, par les Australiens, par l'Agence spatiale européenne, par le CNES, bien sûr, ici en France.
Sous le fond des océans,
je vous donne un exemple. Par exemple, un satellite passe et il dit les vagues sont de 8 mètres. Enfin, il a ses appareils, son altimètre, voilà. Et nous, sur place, à l'endroit, on pourra dire oui, elles sont de 8 mètres, ou non, elles sont que de 5 mètres. Donc ça permet de recaler la mesure, si vous voulez.
D'ajuster
la mesure. Donc voilà, ce sont les trois domaines qui sont demandés.
Alors, vous travaillez pour fabriquer cet engin, qui n'est encore qu'à l'état de maquette, mais
oui,
ça va venir.
Oui, les plans sont faits, et ils sont testés dans un bassin, et la construction devrait avoir lieu en 2016.
Alors, vous travaillez pour ça, notamment avec les ingénieurs, vous l'avez dit, les architectes de l'Ifremer. Je vous propose un autre éclairage sur le Polar Pod, c'est celui de Michel Olagnon. Il est ingénieur de l'Ifremer et spécialiste des vagues scélérates, et il était récemment notre invité.
J'ai rencontré Jean-Louis Etienne qui m'avait appelé pour savoir si son Polar Pod allait être soumis à des vagues scélérates. Le problème du Polar Pod, on l'a étudié dans notre bassin à Brest, et c'est difficile de faire une structure qui soit relativement confortable pour les gens qui vont aller à bord avec Jean-Louis Etienne. On a beaucoup travaillé avec lui et avec son architecte naval là-dessus, et ça reste pour moi une grande aventure humaine et un grand sacrifice d'aller pour plusieurs semaines sur quelque chose qui va bouger. Bon, ça va donner le mal de mer, hein, c'est clair.
Ça va donner mal de mer. Quelles sont les grosses difficultés pour vous en tant qu'ingénieur par rapport à ce Polar Pod? C'était quoi les grands enjeux? Les vagues scélérates ou d'autres questions?
Les vagues scélérates, finalement, l'architecte naval s'en est bien débrouillé. Il a fait quelque chose qui va ne pas trop bouger quand les vagues seront normales, et quand il va arriver une très grande vague, va monter avec la vague et surtout ne va pas prendre la vague au moment où il est en mouvement dans l'autre sens, en mouvement descendant. Bon. Donc il a fait quelque chose qui est bien, mais après, je dirais que c'est comme un architecte naval, c'est comme un architecte de maison, ça vous fait quelque chose de beau et qui tient, mais ça vous donne pas forcément quelque chose de confortable. Et là, on a eu beaucoup de mal avec lui à essayer de faire quelque chose qui permette de travailler à bord. Hein. Mais l'idée en elle-même est très intéressante.
Formidable idée, mais pas confortable. Vous avez le mal de mer, Jean-Louis?
Je l'ai eu, le mal de mer, oui. Je risque de l'avoir. Alors, c'est marrant parce que ça bouge beaucoup moins qu'un bateau.
Parce que c'est en dessous.
Mais on est ancré dans cette masse d'eau épaisse de 80 mètres, si vous voulez. Donc, et les vagues, en plus, c'est un treillis, donc les vagues nous passent à travers. On n'est pas percuté par la vague, elle nous passe à travers. Et
c'est tout petit, l'habitacle. Vous allez être à combien? Qui va vous accompagner?
Cette personne. Oui, c'est comme un petit bateau, si vous voulez. Non, pour moi, c'est assez confortable.
Mais enfin, vous qui êtes allé au pôle Nord,
plus confortable. Moi, j'ai fait la course autour du monde avec Tabarly, j'ai navigué avec le père Jaouen, j'ai traversé les océans, j'ai eu le bateau Antarctica qui s'appelle Tara aujourd'hui, donc j'ai beaucoup navigué. Et je sais que le Polar Pod va être beaucoup plus stable. On a fait des études de mouvement. Et les travaux qu'on a fait à Ifremer sont très intéressants et nous permettent d'ajuster un petit peu le mouvement. On a ce qu'on appelle du pilonnement. Tout le monde sait ce que c'est que le pilon, hein, pour écraser les graines de haut en bas. Bon, 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 tape. Voilà. Le pilonnement, c'est ce mouvement qui va de haut en bas. Eh bien, ce bateau, il pilonne très peu. Ça, c'était important.
Ah, parce que c'était un risque,
Il faut pas entrer en résonance avec la vague. C'est-à-dire, il faut pas monter avec la vague, redescendre. Sinon, vous commencez à faire la valse avec les vagues et puis vous savez pas vous arrêter. Donc, il est très stable. Il pilonne très peu et il s'incline un tout petit peu. Attendez, on parle de creux de 7 et 11 mètres que nous avons testé avec Michel Olagnon et son équipe, Marle Bouluec, à Ifremer-Brest, si vous voulez. Et donc, ces études, tout ça, c'est numérisé et l'architecte l'utilise pour faire les ajustements pour que ce soit encore plus stable.
Et qui va vous accompagner, alors, à bord?
Trois personnes qui seront des marins, trois marins de marine marchande. C'est un vrai navire. On est un navire de charge de moins de 500 tonneaux, un pavillon français, une inscription maritime. C'est un vrai bateau. Donc 3 marins professionnels et 4 ingénieurs ou techniciens qui sont chargés de faire de la mesure. Si vous voulez, on est comme la station spatiale qui tourne autour de la Terre. Là, nous sommes en train de tourner autour de l'Antarctique.
Et vous allez renvoyer ces mesures aux scientifiques.
Exactement. On fait de l'acquisition de données. Et on renvoie les mesures par satellite aux scientifiques qui sont à terre.
Autour de la question pourquoi persévérer, puisque c'est le titre de votre livre et que c'est également votre devis, je vous propose un nouvel éclairage, Jean-Louis Etienne, celui d'un chercheur en robotique, Rodolphe Gelin. Il était venu dans notre studio avec son petit robot Nao. Il nous avait fait forte impression. Il a une question pour vous.
Dans ces expéditions, dans un monde hostile où il fait très froid, pourquoi ne pas envoyer un robot qui serait téléopéré à la place d'un être humain qui risque sa vie, qui va avoir froid, qui va avoir faim, qui va s'ennuyer? Ça serait quand même mieux, un robot.
Un robot à la place ou un robot avec un être humain?
Alors, on a fait déjà un robot avec un être humain. Dans la solitaire, il y avait Tanguy qui était parti avec un Nao sur son bateau quand il avait fait le tour du monde. Mais là, ça serait à la place, en fait. Ou alors, ils peuvent aller avec pour lui tenir compagnie, en effet. Mais à la place, à distance, on pourrait téléopérer le robot pour qu'il fasse toutes les expériences, comme le robot martien, en fait.
Télécommander un robot à votre place ou à la place sur le polar pod.
Mais il y a déjà des robots, si vous voulez, ce qu'on appelle les il y a des sous-marins autonomes qui on met en programme, si vous voulez, ils ont un programme et une trajectoire, ils reviennent. Il y a ce qu'on appelle des gliders aussi qui peuvent rester longtemps en mer. Il y a des drones qui font du travail. Mais pour les mesures que nous allons faire, on a vraiment besoin de l'homme. Mon inspiration est venue de là. Les publications que je lis sur l'océan Austral, sur l'Antarctique, toutes les publications sur cet océan agité de tempêtes qui est loin, qui est très peu exploré en fait parce qu'il est tellement loin, se termine tout le temps. On a besoin de mesures in situ. On a quand même besoin encore de l'homme, si vous voulez. Et donc, pour les mesures que j'ai énumérées, on a encore besoin de la nature humaine. Alors, il y a des satellites, que j'ai bien sûr, qui sont des formes de robots, si vous voulez, qui font des mesures. C'est déjà très exploré par ces outils-là, mais il y a certains
types de... Justement, il faut aller voir...
Certains types de mesures ont besoin de l'homme encore.
Et certains types de mesures, aujourd'hui encore plus, parce que c'est vrai que on parle de l'état des océans, on se pose énormément de questions sur le climat de la planète. Vous-même, ce sont des questions qui vous parlent, qui vous intéressent, vous qui faites monter des expéditions, vous savez bien à quel point c'est important.
Oui, je les ai constatés. Sans aller, si vous voulez, au pôle Nord ou au pôle Sud, il suffit d'aller dans les chaînes de montagnes ou à des glaciers pour se rendre compte partout dans le monde qu'il y a une régression importante. La glace fond parce que le climat se réchauffe.
Mais vous l'avez vu spécifiquement
au
pôle Nord
ou
au pôle Sud?
Écoutez, pour vous donner un exemple précis, j'ai traversé l'Antarctique en 1989-90 avec des chiens, l'expédition Transantarctica.
L'Antarctique, c'est le Nord.
Non, en Antarctique.
L'Antarctique, c'est le pôle Sud.
Le pôle Sud, c'est un immense continent, ça fait 28 fois la surface de la France. C'est immense. Ça a duré 7 mois. On était 6 de nationalités différentes, avec un Russe qui était encore de l'Union soviétique, un Chinois, un Japonais, un Anglais, un Américain et moi. Et les premiers 600 kilomètres, on longe la péninsule Antarctique, cet appendice qui sort du continent Antarctique. Mais les premiers 600 kilomètres, on était sur la glace qui est accrochée à la côte. Ça a disparu. La glace, l'Antarctique perd de la glace. Le Groenland au nord, donc en Arctique, perd aussi de la glace. La banquise, qui est cette couche de glace de mer qui recouvre le pôle Nord, régresse tous les ans. À la fin de l'été, on s'en rend compte. Les régions polaires sont affectées par le réchauffement climatique, c'est une évidence.
Vous qui êtes donc déjà allé vers le pôle Sud et au pôle Nord, hein, géographique, vous le racontez dans votre livre, ça fait quoi d'être... sur le pôle.
Alors, l'arrivée au pôle Nord, effectivement, on se dit, ça y est, je suis sur l'axe de rotation de la Terre. Alors, on n'a pas le sentiment d'être traversé par l'axe de rotation de la Terre. C'est vrai que quand on prend notre sphère, si vous voulez, la pape monde, là, qu'on fait tourner,
on se dit,
si je suis là-haut, mon Dieu, je vais avoir la tête qui tourne.
Voilà.
Eh ben non.
On se rend compte, c'est là.
Un peu par la navigation. Alors aujourd'hui, on a des GPS, si vous voulez, on a des téléphones, on a des GPS. Quand je l'ai fait en 86, il n'y avait rien de tout ça. J'avais une balise Argos. Alors la balise Argos, c'est ce qu'on mettait sur des bateaux, sur des albatros pour étudier leur trajectoire. Par exemple, l'albatros, il sait pas où il est. Enfin, lui, il sait où il est, mais je veux dire, avec une balise Argos, la balise ne vous dit pas où vous êtes. Vous devez avoir une conversation avec le centre d'études spatiales qui vous dit... Voilà. Et donc, j'ai eu, vers la fin de mon parcours... des informations toutes les 4 ou 6 heures me disant où j'étais. Et à un moment donné, je me suis dit, mais j'y suis. Si vous voulez, c'est rendez-vous au milieu d'un océan gelé. Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a pas un panneau pôle Nord.
C'est ici.
C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que la banquise qui recouvre l'océan dérive. elle bouge, elle peut faire 20 km par jour. Donc, voyez, si on voulait faire cette émission exactement au pôle Nord, il faudrait qu'on marche, qu'on se déplace.
Ah, parce que ça bouge tout le temps.
Mais oui, on est là depuis 45 minutes. 45 minutes, vous avez, on aurait peut-être fait un kilomètre déjà, par grand, s'il y avait du vent. Donc, il n'y a pas de panneau possible planté, parce que c'est une couche de glace qui fait... C'est une coquille d'œuf, en fait. Ça fait 2 mètres d'épaisseur par rapport à la profondeur d'un océan. D'où la bagarre terrible qu'il y a eu pour savoir qui vraiment a été le premier au pôle Nord.
Qui a mis le pied sur
Piri
le pôle
et
Nord.
Cook, ça a été une bagarre terrible, parce que... Une fois que vous avez planté le drapeau, une heure après, il n'y est plus.
Autour de la question, pourquoi persévérer toujours et jusqu'où? En guise de réponse, vous avez choisi ce morceau d'Eric Clapton, Change the World, sur RFI.
The stars pull one down to you, shining on the heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now.
Clapton, Change le monde sur RFI en compagnie de Jean-Louis Etienne, explorateur des pôles et des océans arctiques et antarctiques. Nous devons réinventer le monde, c'est-à-dire penser en dehors de nos repères habituels. Et nous, communauté des océans, croyons qu'une part importante de la solution viendra de la mer. Je cite Françoise Gail, directrice de recherche au CNRS, coordinatrice scientifique de la plateforme Océan et Climat. Autour de la question pourquoi persévérer et comment, à la veille de la Journée mondiale de l'environnement, à quelques mois de la conférence sur le climat à Paris, les chercheurs du Nord et du Sud se mobilisent en réseau, à Marseille en ce moment même, à la MedCOP21. Je vous propose en fait d'écouter un de ces chercheurs, Joël Guillot, il est directeur du laboratoire OTEMED sur le changement climatique, les dangers naturels en Méditerranée, qui organise en ce moment même, à cette heure précise, un atelier à la MedCOP21 à Marseille avec des jeunes chercheurs et ingénieurs de tous les pays du pourtour méditerranéen.
Alors on a invité des participants d'Espagne, d'Italie, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, du Liban. En gros, on peut dire il y a le Nord et le Sud. Quand même, le Nord n'a pas les mêmes problèmes que le Sud. Alors, même au niveau du changement climatique, les difficultés ne sont pas les mêmes. Le Sud a vraiment beaucoup à faire avec la sécheresse et ça leur occasionne des problèmes particuliers. Le Nord, par exemple, prenons simplement les forêts méditerranéennes du nord de l'Europe, elles ont plutôt tendance à augmenter suite à la désertification agricole. Donc les paysans quittent un peu l'agriculture et beaucoup de terres agricoles deviennent des forêts, alors que dans le sud, c'est pas comme ça que ça se passe. Les terres agricoles continuent à s'étendre au détriment des forêts. En plus, on ajoute à ça l'érosion. Donc déjà, rien que pour ça, on a des problèmes très différents, mais on a quand même besoin d'un socle commun de recherche et de formation. Et je pense que ce qui est vraiment important, c'est que les jeunes, qui vont être peut-être les décideurs de demain, puissent voyager entre les différents pays et se familiariser un petit peu avec les expériences qui ont eu lieu. Et on a aussi bien au sud qu'au nord des expériences d'éco-quartiers où on essaye de faire des quartiers qui sont neutres au niveau énergétique. Et il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent moins bien, etc. Et si les étudiants en master, par exemple, ou les ingénieurs peuvent aller voir ce qui se passe ailleurs et revenir fort de leur expérience, je pense que tout le monde a beaucoup à y gagner. Donc, faut certainement faire attention à ne pas faire quelque chose qui est simplement du nord vers le sud, parce que le sud a beaucoup à nous apporter aussi. Il faut vraiment que ce soit un échange. Et également, sud-sud, il y a des pays du sud qui connaissent des problèmes que d'autres pays du sud connaissent. Et donc, il faut pousser les étudiants, les enseignants à communiquer.
Communiquer en réseau du nord au sud, du sud au nord et sud-sud sur toutes ces questions environnementales, Jean-Louis Etienne.
Oui, c'est rassurant tout ce qu'on entend là, je trouve, parce qu'effectivement, c'est le citoyen qui va faire le changement. Le citoyen, qu'il soit dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie politique, je ne sais pas. Nous sommes chacun les acteurs du changement. Et bien sûr, les grandes orientations politiques, elles sont difficiles à prendre, surtout quand on imagine gérer le monde, essayer de donner le même chemin de développement à tous ces pays, ça va être compliqué. Je pense que le devoir des hommes politiques, c'est de donner envie à chaque citoyen de prendre part à la solution.
On en revient à votre persévérer, en fait, prendre conscience, prendre connaissance aussi des enjeux, mais persévérer soi pour soi aussi, oui, par rapport à soi-même.
Oui, bien sûr. Je crois qu'on se construit dans une discipline personnelle, quelle qu'elle soit, voyez. Et la discipline, c'est un chemin balisé qui vous permet effectivement de mettre votre créativité, votre ingéniosité, votre envie. Et si on prend les questions environnementales, je trouve que c'est intéressant dans une journée de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour l'environnement. De temps en temps, vous voyez, je donne un euro à quelqu'un qui me le demande à la porte, ou on dit, tiens, j'ai fait quelque chose de bien. Vous voyez, c'est pas une goutte d'eau, mais le gars qui l'a reçu, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'environnement? Et je crois que c'est cette mise en œuvre générale. Vous savez, c'est du sens civique. Le respect de l'environnement, c'est tout simplement le respect de l'autre, ne pas polluer l'univers des autres. Et donc déjà, commencer par ses propres... Regardez comme c'est difficile de changer ses propres habitudes. Hein. Donc quand on pense changer le monde, ça va être encore plus compliqué. Donc commençons par être, moi je dis toujours, soyez efficace dans votre périmètre d'influence. On a tous une influence, déjà familiale ou professionnelle, soyez efficace dans ce périmètre-là.
C'est déjà pas mal, et vous êtes fixé, j'ai envie de dire aussi, Jean-Louis Etienne, une autre mission, c'est celle de transmettre quand même. On l'a dit, vous écrivez, hein, votre dernier livre s'intitule « Persévérer », c'est un vrai message, ça. Vous transmettez, enfin vous voulez que les scientifiques viennent, prennent des mesures, voilà, vous avez eu envie dès le départ de faire des expéditions, mais ensuite il y a une question de partage.
J'ai une vieille tentation pédagogique, ancienne si vous voulez.
Qui remonte.
Oui, j'aime en fait décortiquer les choses pour essayer de les simplifier, de les transmettre. C'est vrai, c'est un goût. Moi, vous savez, je trouve que la pédagogie, c'est une mise en scène des connaissances, c'est-à-dire les rendre attractives, simplifier les choses, raconter une histoire pour qu'elle soit compréhensible, simple. Et j'ai toujours aimé ça. Et pour en revenir à l'écriture, j'étais extrêmement mauvais en français, mais mauvais. J'étais au collège technique, j'étais dans les derniers en français, donc jamais imaginé qu'un jour je pourrais écrire. J'ai découvert les mots par la lecture. Nicolas Bouvier m'a aidé dans l'usage du monde.
Grand écrivain voyageur.
En lisant l'usage du monde, je me dis, mais bon sang, mais c'est exactement ce que je voudrais écrire pour dire ce que j'ai ressenti.
Et faire passer, le présent du voyageur.
Exactement.
En l'occurrence.
Et il m'a donné envie de se lancer dans cette quête des mots. Il a des phrases en 4 ou 5, 6 mots, avec une phrase où il y a le son, il y a la couleur, vous voyez, tout d'un coup. Voilà. Et donc je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a une richesse des mots, c'est un vrai atelier, les mots.
Et on peut faire partager une expédition, le pôle Nord,
et donc,
le
comme
pôle
je vous
Sud.
Dis, j'encourage tous ceux qui nous écoutent. Regardez, vous allez partir en voyage, par exemple, pour les vacances, vous envoyez une carte postale. Bon, c'est un peu la corvée, vous dites, ouais, bonjour mamie, il faisait beau, on a mangé des je sais pas quoi, salut, voilà. Vous n'avez rien dit, mais si vous essayez juste d'écrire une émotion que vous avez eue en voyant quelque chose de magnifique le matin, le
même par SMS, ça marche. Hein.
Même par SMS, trouvez quelques mots simples qui viennent de vous. Ben, tout d'un coup, le choix du mot juste est une jouissance.
Là aussi, il faudra peut-être persévérer aussi. Merci infiniment, Jean-Louis Etienne, d'être venu en direct dans notre studio pour partager donc tous ces mots, toutes ces interrogations et cet esprit d'aventure et de connaissance qui vous anime. Persévérer, c'est donc le titre de votre dernier ouvrage, paru aux éditions Paulsen. Le Polar Pod, je crois que votre départ est prévu, si tout va bien, pour l'océan Austral, donc pour 2007. Vous viendrez peut-être nous en parler 2017.
Bien sûr que je viendrai.
Et nous faire partager les sons. Moi, j'aimerais
entendre
les sons des baleines.
Avec vous depuis l'Antarctique et RFI,
exactement, exactement. Donc, on veut du son des baleines. À bientôt, oui. Jean-Louis Etienne.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
Demain, comme tous les vendredis, c'est Sophie Joubert que vous retrouverez à ce micro, amis auditeurs, pour la Journée mondiale de l'environnement sur RFI. Sophie reviendra sur l'histoire de la pensée écologique avec le professeur Dominique Bourg. Quant à nous, Guillaume Ploquin, Caroline Fillette et Caroline Lachowski, nous vous donnons rendez-vous lundi pour nous poser ensemble toujours de nouvelles questions. Persévérez, bien sûr. Merci à tous pour votre curiosité, pour votre interactivité. Même si nous ne répondons pas à tous vos messages, ils nous sont très précieux. Surtout, portez-vous bien et gardez l'esprit libre et ouvert dans quelques instants, l'heure d'un nouveau journal sur RFI.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.